Bonjour, Macron candidat des médias, Macron chouchou des médias. L'accusation est dans la bouche de quasiment tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Et je dois avouer que cette même accusation, ce même soupçon, nous effleure parfois ici à Arrêt sur Image, à constater le nombre de couvertures de magazines et d'éditoriaux favorables qui sont consacrés à la candidature de l'ancien ministre de l'économie. Alors la presse de droite comme de gauche, et peut-être plus encore la presse ni de droite ni de gauche, a-t-elle choisi son camp? Ce sera la question posée à nos deux invités de l'émission d'aujourd'hui, Robin.
C'est ça. Avec vous, Mathieu Manodex, vous êtes journaliste à Mediapart, vous suivez Macron depuis donc le début de sa campagne. Et avec vous aussi, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef de Paris Match. Vous avez mis 4 fois depuis avril 2016 le couple Macron en couverture de votre magazine. De quoi nourrir peut-être le soupçon général? On regarde.
Le candidat des médias, puisqu'il en est à sa 75e une de magazine sans avoir fait une seule proposition.
Ce n'est pas tellement le jugement sur Emmanuel Macron qui me surprend, qui est une création médiatique.
Je m'étonne que Macron soit pas plus haut parce que sa candidature est gonflée à l'hélium médiatique tous les jours.
Il y a des groupes de presse, et notamment celui qui est dirigé par M. Drahi, qui, il est assez clair, est assez évident, soutiennent aujourd'hui ouvertement M. Macron.
On voit que Macron est gonflé à l'hélium médiatique. C'est-à-dire il y a une disproportion totale entre l'importance d'Emmanuel Macron dans les médias et ce qu'il y a dans la vraie vie.
C'est le candidat des médias aussi, pardon. Enfin, je veux dire, la fascination puérile des médias pour ce candidat en est presque drôle.
Comment vous expliquez qu'il y ait autant de personnes dans ces
meetings ? Au-dessus de ça, il y a les jeunes filles à la sortie du concert de Justin Bieber.
Alors, on va examiner les éléments du dossier un par un, mais d'abord, très très rapidement, quand vous entendez ça, qu'est-ce que... Alors, vous vous dites, c'est 100% faux, il y a un peu de vrai, tout est vrai?
Il y a un peu de vrai, forcément. Dans chaque campagne présidentielle, finalement, quand on les reprend, c'est la 10e, il y a toujours un candidat qui... soit parce que il est issu d'une forme de nouveauté, il a jamais été candidat, soit parce que c'est un parcours particulier, soit parce que il a renversé dans sa trajectoire précédente un vieux cacique de son parti. Il y a toujours un candidat qui apparaît un peu comme le candidat le plus couvert par les médias. Alors les médias de droite, de gauche, ni de droite ni de gauche. Reprendre votre formule, c'est un peu vrai sans doute pour Emmanuel Macron. En plus, Emmanuel Macron, il cumule presque tout ce qui, dans une campagne présidentielle, peut intéresser les médias. Il est nouveau, il est sur un créneau ni droite ni gauche, ce qui, dans la cinquième, est quand même assez rare de en position de se qualifier pour le second tour. Il y a François Bayrou qui a failli le faire, mais qui ne l'a pas fait. Donc il cumule, j'allais dire, un peu pas mal d'éléments qui peuvent...
En fait, c'est la nouveauté et l'anomalie, quoi.
Il y a un peu de ça, nouveauté, anomalie, mais aussi la perturbation. Il perturbe, il fait turbuler quand même le système politique qui, quand même, globalement, n'est pas en grande forme actuellement.
Et ça, les journalistes aiment bien, quand ça fait turbuler.
Enfin, les journalistes, ils aiment bien, ils prennent aussi ce qui se trouve. Il se trouve que la campagne 2017, pour l'instant, elle est quand même assez particulière et on manque pas d'épisodes plus ou moins agréables d'ailleurs.
Vrai ou pas vrai?
Non, moi, je retiens l'élément de nouveauté. Je pense que l'aventure politique d'Emmanuel Macron, il y a 5 ans ou 10 ans, dans un autre système politique où gauche et la droite, ça restait un petit peu plus structurant. On était des gens où le système politique n'était pas aussi délabré. Peut-être que, à mon avis, ça n'aurait eu aucune chance. Peut-être que, d'ailleurs, ça n'ira pas. On ne sait pas très bien où ça va aller. Peut-être qu'il ne passera pas le premier tour. Il faut aussi se garder des prophéties autoréalisatrices dans lesquelles, j'ai l'impression, moi, beaucoup de commentateurs sont. Mais par ailleurs, moi, je trouve que si on regarde un peu de façon systémique, entre Emmanuel Macron et les médias, si tant est qu'on peut parler des médias, c'est toujours la même question, mais enfin, je pense qu'il y a quand même une différence à opérer. En tout cas, je pense qu'il y a une sorte de système un peu de donnant-donnant, pour résumer très vite, et ça peut être une base de discussion après, mais d'une certaine façon, la curiosité dont Bruno Jeudy a parlé fait que Emmanuel Macron, en fait, fait vendre beaucoup. Moi, j'en parle à tous les confrères ou les consoeurs qui suivent la campagne d'Emmanuel Macron, et je crois que c'est le cas aussi pour Paris Match d'ailleurs.
On va en parler, voilà. On a vu toutes les couvertures qu'ils
voilà,
ont faites.
Voilà, donc on reviendra là-dessus, mais en tout cas, voilà, dans les médias, quand on fait une sur Emmanuel Macron, voilà, on parle avec les journalistes de Quotidien, par exemple, ils disent que ça booste les ventes. Et dans une crise de la presse énorme, notamment, ça fonctionne, bien sûr. Et puis, il y a un système de donnant-donnant, parce que de l'autre côté, Emmanuel Macron, lui, est dans une aventure très particulière où il n'était personne il y a 3 ans pour le commun des mortels. Il aspire aujourd'hui à la plus haute fonction présidentielle qui, normalement, prend des années, comme ça, en France, à pouvoir prétendre à cette candidature suprême. Et du coup, pour ça, il a besoin des médias de façon très... rapide et gloutonne d'une certaine façon. Et donc, il y a un système comme ça d'échange. Voilà.
Alors, ce qui est vrai, c'est que ça a commencé très tôt.
Oui, parce que l'échange, c'est depuis avril 2016, en fait. Et depuis avril 2016, les médias se demandent si Macron ira ou ira pas. On regarde.
La montée en puissance d'Emmanuel Macron, le ministre, constitue ses réseaux.
2017-2022, il se prépare à toute éventualité.
Est-ce que Emmanuel Macron sera candidat ?
Les premiers meetings pour Emmanuel Macron ce soir et cette question, est-il en marche ou à l'arrêt ?
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce qu'il s'est passé ce soir, on imagine mal comment Emmanuel Macron ne pourrait pas y aller.
Or, selon ses proches, il ne devrait toujours pas annoncer sa candidature.
Ce soir, la démission d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, quitte le gouvernement pour, dit-il, se sentir libre de proposer son projet.
Vous le voyez, en quelque sorte, le début d'un programme présidentiel pour celui qui n'est pas encore candidat.
Et il fait un pas en avant sur une forme de candidature.
Est-ce qu'on suit pendant 24 heures le candidat Macron, oui ou non ? Est-ce qu'on peut écrire 24 heures chrono avec le candidat Macron ?
Alors, le montage, là, il commence l'an dernier, mais on dirait que c'était déjà il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je veux dire, l'an dernier, à cette époque, enfin, presque à cette époque, en avril, on ne sait même pas s'il sera candidat, il n'a jamais dit qu'il serait, et les médias sont déjà hystériquement focalisés sur le personnage.
Il y a un storytelling incroyable qui est, je pense, là encore, une rencontre entre une aspiration d'un certain nombre de médias. Moi, j'oublie jamais qu'il y a quand même très souvent, ça devait être à l'époque d'ailleurs, je sais pas si vous dirigez le JDD, c'est une qu'on voit souvent sur, je sais pas d'ailleurs, mais sur l'Union nationale, etc. Donc il y a beaucoup de médias comme ça qui, en tout cas peut-être de directeurs de rédaction, je ne sais pas si c'est tous les journalistes, mais pour qui Emmanuel Macron incarne finalement cette idée d'un gouvernement, d'union nationale, de l'union nationale. Ça fait très longtemps qu'il abolirait le clivage gauche-droite, etc. Je pense qu'il y a une attente des médias. Et de l'autre côté, lui, il a alimenté, ce que je veux dire juste, le storytelling, en ponctuant, c'est-à-dire en disant « je vais faire un meeting politique pour lancer mon mouvement », puis ensuite en laissant comprendre qu'il allait démissionner, et ensuite en ponctuant, depuis qu'il est candidat, comme ça, de petits cailloux, comme ça, sur lesquels les médias réagissent beaucoup.
Alors, bien sûr, on parle de plusieurs facteurs depuis le début de cette émission. On a dit la nouveauté, on a dit le donnant-donnant. Là, il y en a un nouveau qui vient de surgir. C'est effectivement, il incarne l'Union nationale. Ce qui pose la question de savoir si cette curiosité est liée, on va dire, juste à la nouveauté du personnage ou de sa démarche, ou est-ce qu'il y a aussi une espèce d'affinité idéologique avec un certain nombre de journalistes pour qui eux-mêmes trouvent le clivage gauche-droite dépassé, on ne voit plus très bien à quoi correspond la gauche, à quoi correspond la droite. Donc, idéologiquement, on se sent en adéquation avec un type qui vient et qui dit « moi, je suis ni de droite ni de gauche ».
C'est vrai, Mathieu a raison, je me souviens, alors pour le coup j'étais au Journal du Dimanche, rédacteur en chef, et on avait fait un sondage justement sur l'Union nationale.
Je m'en rappelle, le truc que je peux
exactement. Comprendre. Exactement. Et c'est vrai que l'idée était soutenue, alors je ne sais plus la proportion, mais c'était très
60,
important.
60, 70 des personnes.
Pas loin des trois quarts des Français. Donc il y a toujours ce vieux rêve dans la Ve République, au fond, qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire jamais un candidat comme ça, on va dire central ou centriste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, même si Giscard s'est fait élire sur une base un peu centriste aussi, mais disons que jamais c'est arrivé. Alors après, moi je pense que Emmanuel Macron, il est aussi le visage de l'affaiblissement de la digue entre la gauche et la droite. C'est-à-dire au fond, depuis 30 ans, la droite et la gauche se sont à peu près partagés le pouvoir dans les mêmes proportions, et globalement, je sais pas si on peut dire que c'est un échec à chaque fois, mais à l'arrivée, le pays est toujours dans une forme de chômage de masse, la dette est élevée, beaucoup des indicateurs économiques sont mauvais.
Vous voulez parler de la gauche et de la droite de gouvernement.
La gauche et la droite de gouvernement, voilà, tout à fait. Il y a la gauche et la droite qui ne sont pas de gouvernement. Voilà. En tous les cas, à gauche, il y a une offre électorale très différente. L'offre Mélenchon, elle est en rupture avec la gauche gouvernementale.
Qu'on prenne les 35 heures, qu'on prenne la retraite à 60 ans, qu'on prenne la sécu, on voit bien qu'il y a des propositions de gauche et des propositions
bien
de
sûr,
droite.
Je veux dire, ça... et Macron est en train de faire péter ses digues sur ce que vous venez de dire, et encore sur les 35 heures, il a mis de l'eau dans son vin. Mais je crois que c'est un petit peu plus compliqué que Macron, parce qu'il faut quand même partir du, ne pas oublier que Macron était ministre de François Hollande. C'est pas rien.
Et qu'aujourd'hui. Et secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Secrétaire général de l'Élysée, c'est encore, encore plus important puisqu'il est l'inspirateur de la politique économique de François Hollande. Oui. Aujourd'hui, on a tendance un peu à l'oublier. Or,
Mais ma question ne portait pas tellement sur ce que pensent les gens ou ce que disent les sondages. Elle portait sur ce que pensent
les médias.
Oui, enfin, pas les médias. Les médias ne pensent
pas. Journalistes.
Les journalistes.
Les journalistes. Alors, est-ce que les journalistes seraient finalement tous des centristes?
Ou les directeurs de la rédaction? Oui, enfin, je veux dire, la haute hiérarchie journalistique, voilà. Moi, dont vous êtes un représentant ici.
Je pense aussi qu'il faut voir la situation politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, Macron, dans ce moment où on est à 40 jours, grosso modo, du premier tour, il apparaît comme l'un des candidats qui a le plus de chances de l'emporter. Aussi parce qu'il y a les malheurs de François Fillon qui s'est écroulé quand même dans les sondages. Il a quand même perdu, grosso modo, une dizaine de points. Aujourd'hui, il est en difficulté. Les sondages valent ce qu'ils valent. Je crois aussi qu'il y a un certain nombre, peut-être, de médias de droite qui montre peut-être une forme de bienveillance à l'endroit de Macron.
Mais Bruno, je dis, là, vous vous replacez maintenant en commentateur. Mais ouais, moi, je m'adressais plutôt, j'allais dire, aux citoyens. Vous, personnellement, pensez que le clivage entre la droite et la gauche est dépassé, que ça n'a plus grand sens ?
Non, moi, je pense qu'il existe encore. Sur l'économie, il y a des vraies différences. Franchement, si on prend le programme de Benoît Hamon et de François Fillon, franchement, je vois quand même beaucoup de différences. Une approche notamment du code du travail qui n'a rien à voir. Et sur bien d'autres sujets, y compris même sur l'approche de la laïcité, par exemple, Benoît Hamon, François Fillon, ça a quand même rien à voir. Je prends Benoît Hamon, François Fillon parce que on va dire que c'est Benoît Hamon incarne une forme de il revient aux fondamentaux de gauche qui ont peut-être été perdus pendant le quinquennat de François Hollande. En tous les cas, ça lui est beaucoup reproché, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se représenter, au fond, c'est qu'il a perdu le flanc gauche de sa majorité. Macron, il est, j'allais dire, c'est le candidat classique du courant central qui cherche à faire disparaître la droite et la gauche. Moi, je crois, et c'est pour ça que je crois que la différence entre la droite et la gauche existe encore, et que Macron aura bien des difficultés à gouverner en pensant qu'il peut effacer ce clivage.
En partant du principe qu'il est élu.
En
partant d'abord du principe qu'il arrive au second tour, comme disait Manuel.
Non, mais moi, je suis toujours prudent,
vous êtes en train d'utiliser un futur, là.
Oui, j'ai utilisé un futur, parce que là, on se place dans la perspective où il serait élu. Et depuis le début de l'émission, on le place
C'est le sujet de l'émission.
Voilà. On le place dans une position centrale, parce que si on s'en tient aujourd'hui, on ne peut pas écarter la possibilité qu'il soit élu.
C'est en tout cas ce que disent les sondages. Pronostiquait la victoire d'Hillary Clinton contre Donald Trump, et bien d'autres exemples.
J'ai le sentiment, moi, que les sondeurs français sont meilleurs que les sondeurs anglo-saxons.
Sérieux ?
Ouais. Je pense notamment qu'ils ont amélioré leur outil pour mesurer notamment la cote de Marine Le Pen.
Alors, on va reparler des
sondages. C'est un autre sujet. La cote des populistes,
On va reparler des sondages dans une seconde, oui.
Non, juste un mot là-dessus. C'est que, on a parlé du moment dans lequel on est, de l'affaire Fillon, etc. Mais je pense qu'il faut quand même regarder un petit peu en arrière. Pour moi, je pense, Emmanuel Macron, il représente pour beaucoup d'éditorialistes ou directeur de rédaction, et pas tous encore, je veux pas non plus généraliser. Mais en fait, ce truc que j'entends, j'ai 36 ans, que j'entends depuis 20 ans, en fait, en gros, depuis que je peux lire des journaux un peu...
Le candidat de l'Union nationale.
Pas juste l'Union nationale, c'est il faut faire les réformes que la France n'a pas faites. Voilà, ce discours-là. Et Emmanuel Macron, d'une certaine façon, représente ce discours-là, d'une certaine façon.
Moi, je trouve qu'il ne promet pas. Je trouve qu'entre le Macron du début de son aventure politique, c'est-à-dire le Macron de 2015, qui percute les 35 heures, qui percute le statut des fonctionnaires,
je vous arrête parce qu'on n'est pas là pour parler de Macron, parler des médias rapport à Macron, ce qui est un sujet légèrement...
Les éditoriaux de Christophe Barbier dans l'Express, voilà, typiquement, c'est cette idée qui est exprimée, et il soutient...
On va voir Barbier tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de prophétie autoréalisatrice. Alors, je voudrais qu'on dise un mot maintenant, donc, des couvertures de magazines et de la grande histoire d'amour entre Macron et les magazines français.
Les dizaines de couvertures consacrées à Macron depuis 2015. Alors, on va commencer avec celle de l'Obs, qui depuis donc 2015 a mis 6 fois le candidat à la une de son hebdomadaire. Alors, dès octobre 2015, donc Macron...
2015,
ouais. C'est le dynamiteur. Avec cette question, Macron va-t-il trop loin? On passe ensuite à mars 2016. Cette fois, c'est la fusée Macron. Septembre 2016, c'est l'homme pressé. Novembre 2016, donc deux mois plus tard, Macron qui dévoile enfin son programme. Janvier 2017, les secrets de Macron. Son enfance, son argent et ses amis. Et février 2017, lui président, avec un point d'interrogation quand même. Donc voilà, ça c'est l'Obs. Et puis il y a Paris Match. Donc Bruno Jeudy, vous avez été un peu plus raisonnable que l'Obs.
Je suis sauvé.
En mettant le couple Macron donc seulement 4 fois à la une de match depuis l'an dernier. Donc la première, c'était en avril 2016. La seconde, en août 2016. La troisième, en novembre 2016. Et la dernière, c'était très récemment, en février 2017.
Bon, alors on va les reprendre une par une hein, pour essayer de comprendre l'histoire, pour essayer de comprendre si, dès 2016, vous avez, dans un complot diabolique, décidé de faire la campagne de Macron. Donc la première, on est en avril, là.
Avril 2016. Ensemble sur la route du pouvoir, Brigitte et Emmanuel Macron.
Quelle est l'histoire de cette couverture?
L'histoire de cette couverture, pas révéler des grands secrets de conférences de rédaction, c'est au fond en 2015, dans notre discussion de conférence, on se dit on a raté Macron. On a raté Macron pour un magazine comme Paris Match. On se dit, c'est un nouveau ministre. Il a un discours assez transgressif pour quelqu'un qui gouverne dans un gouvernement de gauche, à un poste important, qui n'a pas sa carte au PS. Et on se dit, on l'a raté. Il y a évidemment, on a bien, nous, à Paris Match, en vue également son histoire avec Brigitte Macron, qu'on connaît assez peu à l'époque. Quelques portraits ont été faits, mais là, c'est peu parlé globalement. Et on se dit, on l'a raté. Alors, on l'a raté pour différentes raisons. Moi, je l'avais interviewé au Journal du Dimanche plusieurs fois. Et quand j'arrive à Paris Match, je prends contact avec Macron, notamment pendant l'automne, l'hiver 2015-2016, au moment de la loi Macron, la discussion de la loi Macron. Et à ce moment-là, on veut mettre un photographe, on veut mettre une équipe pour le suivre pendant toute cette discussion parlementaire, mais y compris à l'Assemblée. Et ça se passe pas bien. Il veut pas, en fait. Il est très... il veut pas. Il veut pas de photographe, il veut personne. Il nous refuse. Alors... On finit par faire un papier, mais alors à Paris Match, bon voilà, pas de photos, pas de sujet. Enfin, c'est un peu notre ADN, les photos quand même. Donc pas de photos, on est très très embêtés. Et là, moi je suis récent à Paris Match, et y a, au moment du bouclage d'un papier pendant l'hiver, un des chefs du service photo me dit, écoute, j'ai récupéré des photos des paparazzades, il est en vacances au ski puisqu'il veut pas faire de photos. Tiens, on va passer une photo de lui et sa femme au ski, quoi. Petite photo, voilà, dans un papier qui était par ailleurs un papier qui était pas du tout sur le couple, mais qui était vraiment sur les galères de Macron pendant sa discussion parlementaire. Et là, son cabinet m'appelle et quand ils ont vu le magazine, et
ils ont pas aimé la photo.
Pas du tout aimé, parce que là, Macron était vraiment sur un mode pas de photo de ma vie perso. Pas du tout aimé. Et j'ai même droit, ça a été écrit dans un livre, parce que je l'avais raconté. François-Xavier Bourmeau du Figaro. C'est en gros, j'ai mordu la ligne rouge.
C'est celle-là ?
Voilà, cette photo-là. J'ai mordu la ligne rouge avec cette photo.
Elle est pas méchante, hein.
Elle est à Bagnères de Bigorre, je crois. Et en gros, voilà. Bon, j'ai mordu la ligne rouge. Bruno, il vous parlera plus. Ouais.
Ça s'est visiblement amélioré depuis.
Ouais. Alors, voilà. Alors après, je passe vite. Hein. On arrive au printemps 2016. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une journaliste chez nous qui s'appelle Caroline Pigozzi, qui est invitée dans un dîner d'État comme journaliste. C'est le dîner d'État du roi et de la reine des Pays-Bas qui sont de passage à Paris. Et il se trouve qu'elle se trouve assise pendant le dîner à côté de Brigitte Macron. Et ben elles discutent, elles se rendent compte qu'elles ont des points communs. Leurs premiers maris ont été dans le même institut catholique du côté du Touquet, ou je sais pas quoi. Et puis elle me raconte ça. Je lui dis, mais attends, mais continue à discuter, ça peut être intéressant. Et en fait, après, elles discutent, et puis de discussion en discussion, elles décident de lui raconter la vraie histoire, la romance du couple Macron. Et donc on dit,
c'est comme ça que cette couverture est née.
Et mieux, Brigitte Macron finit par donner des photos de son album de famille à Caroline.
Qui figure d'ailleurs, on les voit.
Emmanuel Macron au ski, Emmanuel Macron qui donne le biberon à la petite fille de Brigitte.
Avec son chien qui s'appelle Figaro.
Et le chien qui s'appelle Figaro.
Oui. Ouais. Oui. Et donc voilà, on a tout ça, et donc évidemment, alors, on a ça, on a le papier de Caroline Pigozzi, et moi je fais un papier politique derrière, et on a cet ensemble.
ensemble. La photo de couverture n'est pas une photo, ils n'ont absolument pas posé pour ce numéro. D'accord. C'est une photo, en fait, du dîner d'État, d'ailleurs, je crois.
Oui, enfin, là, on va aller sur le tapis rouge.
Oui, mais dans la cour de l'Élysée, mais c'est pas une photo, si vous voulez. C'est Paris Match, on aime bien avoir des photos à nous en couverture, et là, on n'a pas de photos à nous.
Les autres couvertures, c'est des photos à vous. Faites avec eux.
On explique. Il y a des différences. Mais donc, cette couverture, voilà. Et cette couverture va déclencher beaucoup de problèmes à l'Élysée. Parce que l'Élysée va, notamment ce numéro sort le jour d'une émission de télévision très importante pour François Hollande, sur France 2, une sorte de DPDA avec des Français. Et évidemment, le matin, le numéro sort, il y a beaucoup de reprises autour de ce numéro. Et Emmanuel Macron a la pression de l'Élysée, de Jean-Pierre Jouyet pour ne pas le citer. Et en gros, Macron doit s'expliquer sur cette couverture, sur cette mise en scène de son couple, avec ce titre ensemble sur vers les marches du pouvoir ou je sais pas quoi, je suis sur la route du pouvoir. Enfin voilà, c'est pris comme une provocation par les Hollandais.
Et ça l'est. Parce que vous racontez un peu l'histoire anecdotique de cette photo et de cette couverture, mais de fait, c'est une provocation, puisque l'imagerie en couple, si vous voulez, est une imagerie clairement présidentielle.
Tout à fait. Voilà. Mais nous, on fait aussi une analyse, je fais une analyse, pour le coup, aussi dans le papier, pour dire que Macron vient de créer son mouvement En Marche, que tout ça est en train de, quand même, un des principaux ministres qui, quand même, lance son parti, tout ça, comme si de rien n'était, et vous inquiétez pas, c'est pas du tout pour être candidat à l'Élysée, mon œil. Donc nous, évidemment, on en tire des conclusions. Et ça se terminera quand même avec Emmanuel Macron qui, depuis un déplacement à Londres le même jour, fait marche arrière et dit en gros ma femme, ma femme a été maladroite et c'est presque Paris Match
Mais là aussi, ça s'est arrangé depuis parce que donc en août... en août, donc Emmanuel et Brigitte à la plage... Pardon ?
Là, à l'intérieur, il y a le monsieur tout nu.
Oui, mais ne spoilez pas
monsieur tout nu, Mathieu.
Ne spoilez pas,
s'il vous plaît. Ouais. Alors là, du coup, cette photo, là, c'est posé, c'est pas posé ?
Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Avant que je vous donne les éléments d'explication, d'abord, entre-temps, on s'est...
Vous êtes rabibouché.
Voilà, on s'est vu, on a discuté. Moi, je suis allé au meeting, on a fait un papier pendant le mois de juillet sur le fameux meeting de la mutualité. Voilà. Et donc, on voit Emmanuel Macron et on lui dit, de toute façon, nous, Paris Match, les vacances des politiques, c'est notre truc. Donc, voilà. Et alors, la photo. Alors, on sait que Emmanuel Macron passe ses vacances au Pays Basque. Mmh. Voilà, on le sait. Et on sait qu'il y a beaucoup de paparazzi, qu'il est très, très, très embêté. Et donc, en gros, lui, il ne veut pas poser. Lui, il ne veut pas poser.
Il veut pas poser. Il ne veut pas qu'on voit qu'il est posé.
Veut pas qu'on voit qu'il est posé.
Bah oui, voilà. C'est pas tout à fait la même chose.
Je suis d'accord. Bon, ben, on lui dit, en passant sur la plage du Miramar, poserait pas, mais... Il y aura dans le métier de photographe, on appelle ça une fausse paparazzade. Voilà, on appelle ça une fausse paparazzade, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les personnalités politiques ne posent pas et elles savent même pas où elles photographent, mais
elles savent juste que ce jour-là, il y aura un photographe sur la plage.
Ça peut arriver.
Ce jour à 7 heures.
Ça peut arriver.
C'est ce qui est arrivé.
C'est ce qui est arrivé et ça a donné quelques photos. Dont une qui est... vous allez en parler.
Mathieu Magnodex. Donc le couple Macron croise effectivement un couple de vacanciers. C'est une plage nudiste ou pas ?
Mais non, le hasard parfois fait de jolis clins d'œil. En fait, non, c'est la plage du Miramar à Biarritz. Figurez-vous que sur cette plage, au fond de cette plage, il y a un corner qui est depuis très très longtemps. Parce que du coup, on a essayé de savoir pourquoi il y avait un nudiste. Parce qu'on voit les photos arriver, on se dit, mais comment est-ce possible ? C'est quand même incroyable. Et en fait, il y a quelques nudistes au bout de cette plage. Alors... on ne sait pas pourquoi le nudiste s'est précipité pour passer devant les Macron. Ce que je sais, c'est que...
Il n'a pas l'air de se précipiter tellement, là.
Non, mais il passe.
Ça semble être une rencontre fortuite.
Il passe, mais figurez-vous qu'il ira même dire bonjour après à Brigitte et Emmanuel Macron.
Vous avez la photo où ils se disent bonjour ?
Non, moi, je n'ai pas vu la photo. Mais je sais que c'était le cas, parce que bon, c'était quand même une photo, c'est dit. Et moi, j'en ai parlé après avec... avec lui. Il n'était pas du tout embêté que cette photo soit passée. Enfin, sur le coup, on s'est dit on a fait un tel barouf.
En gros, vous nous dites au début, on a démarré parce que voilà, on avait eu le sentiment de l'avoir un peu raté les premiers temps, donc on a voulu se rattraper. Mais là, à partir de ce moment-là, on ne peut plus considérer que vous l'avez raté. Ça va, vous avez rattrapé le train, là.
Et donc,
ma question, c'est, je veux dire, pourquoi vous continuez est-ce que c'est juste parce que ça vend? Parce que j'imagine que ça vend, on le disait tout à l'heure. Confirmez-le-moi, d'ailleurs.
La première couverture, c'est quasiment la meilleure vente de l'année 2016.
D'accord.
C'est-à-dire en kiosque, pour vous donner un ordre d'idée, en kiosque, on est autour de 300 000 exemplaires en kiosque. Vous ajoutez les abonnés, ça fait des numéros à 7...
Sachant qu'un numéro moyen de match, c'est combien?
Un numéro moyen de match, ça dépend, parce que match, il y a beaucoup de variations. Ça peut être 200 000, ça peut être 180 000, c'est plutôt le point moyen, c'est 240 000.
Vous faites un peu moins sur la deuxième?
Non, mais c'est surtout que sur ce numéro-là, ça n'était pas arrivé depuis, pour de la politique, hein, depuis les grandes années Sarkozy. Moi, j'étais pas dans ce magazine. C'est-à-dire que là, les services commerciaux ont estimé qu'on avait sans doute raté 50 000 ventes.
Sur ce numéro-là. D'accord.
Sur ce numéro-là.
Et alors, le deuxième, la plage, ça vend aussi?
Le deuxième, ça vend très bien aussi. Un petit peu moins, mais ça vend, ça s'érode un peu. Ça vend un petit peu moins, mais ça vend très très bien.
Et c'est la raison pour laquelle vous décidez de continuer.
Il y a quand même, faut pas se cacher le petit doigt, on n'est pas des philanthropes. Il y a une raison aussi que moi ça, mais il y a aussi une raison qui est que Paris Match, au fond, quand vous faites la couverture de Paris Match, c'est que quelque part on considère que vous entrez un peu dans la salle à manger des Français. La première fois, c'était presque, je ne vais pas dire un test, mais nous on considérait que c'était une personnalité qui allait intéresser les Français. Et on voit bien que les Français s'intéressent à Emmanuel Macron. Et Paris Match, c'est le journal des Français. Vous prenez l'historique des. Je veux dire, le docteur Queuille, sous la 4e République, a fait la couverture de Paris Match avec ses petits-enfants. Vous voyez, ça nous remet à très loin. Beaucoup de nos internautes ne se souviendront pas qu'il a été président du Conseil sous la 4e. Et pratiquement toutes les personnalités politiques ont fait, les grandes personnalités politiques françaises ont fait la couverture de Paris Match.
Là, c'est quand même lui qui en a fait le plus dans les candidats principaux à l'élection présidentielle. Oui. C'est lui qui en a fait le plus. Oui. Voilà, donc la balance n'est pas égale.
Oui. Elle n'est pas égale, oui.
Alors, ça continue.
Novembre 2016, là, il n'a plus peur de poser.
Il est candidat surtout.
Ouais, il est candidat.
Depuis quelques jours.
Et alors là, on est à une époque où Fillon vient de créer la surprise au premier tour.
Ouais, c'est la
des primaires de la droite et du centre.
Et vous choisissez et vous Macron, Macron. Plutôt Fillon.
On a un gros dilemme sur cette. On a un gros dilemme et on fait ce qu'on appelle une fenêtre dans le jargon des couvertures de Paris Match.
Non mais vous faites un choix là. Vous choisissez Macron plutôt Fillon.
Alors là, en fait,
on aurait pu tout à fait politiquement. On aurait pu imaginer le choix inverse.
Alors je crois que cela, c'est le premier tour. Hein. Il déjoue les pronostics. C'est le premier tour. On pense qu'on va faire le. Enfin, à l'époque, on se dit on va faire le deuxième tour avec Fillon, la couverture. On va faire le deuxième tour. On est en négociation pour faire une photo, soit avec sa femme, soit avec ses enfants. Enfin, on essaie un peu de réfléchir à ce qu'on peut faire. Et là, sur le premier tour, on fait un choix. On en a beaucoup discuté. Et puis. Les photos de Macron sont pas mal réussies. Il a fait là pour
ça,
le coup.
C'est ça qui joue.
Là pour le coup,
c'est ça qui joue. Là pour le. C'est pas. Je veux dire, c'est quand on a un arbitrage de ce genre à faire, c'est pas un arbitrage avant tout politique. C'est un arbitrage. Elles sont plus belles de ce côté-là, donc.
Non, c'est un ensemble. Il n'y a pas que les photos, mais les photos jouent parce que la couverture de match, ça tient sur une photo. On coupe jamais la couverture de match n'est jamais coupée. On n'est jamais coupé en deux. Donc là, il y a un choix photo. François Fillon, il a pas voulu vraiment faire une pause photo. Il a pas voulu. Donc ça joue beaucoup. Donc fallait aller chercher une photo de meeting ou je sais pas quoi. C'était pas. Par contre, je pense qu'en texte, on doit être aussi long sur les deux, voire même peut-être un peu plus pour Fillon. Après, bien sûr. Enfin, ça compte quand même. Les gens, ils achètent beaucoup sur la couverture, mais il y a aussi la promesse à l'intérieur.
Et dans ces cas-là, je voulais vous demander, il arrive que les états-majors vous appellent, par exemple les fillonistes, là, ils ne sont pas furieux en se disant, franchement, vous auriez pu mettre Fillon plutôt que Macron?
Moi, je sais que j'en ai discuté avec eux. Hein. Je leur ai dit... non, je leur ai pas dit qu'il y avait... je dis pas ce qu'il y a comme sujet. J'ai beaucoup avec eux dit... l'équipe Fillon a un problème avec...
Je veux dire, quand ils voient la couverture. Je veux dire,
après...
A posteriori, oui.
Ah ben oui, mais le problème, c'est que l'équipe Fillon, à ce moment-là, a un gros problème aussi avec l'image. C'est-à-dire que leur candidat, on ne le prend pas en photo, il joue très peu le jeu de la photo, c'est aussi un vrai problème. Et en gros, les seules images qu'on a, c'est Fillon derrière son pupitre ou Fillon sortant ou entrant dans une voiture. Donc il y a aussi un problème d'image dans l'équipe. Et moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec eux. C'est-à-dire que leur candidat, il est toujours dans la même position. Donc c'est aussi une des difficultés qu'on a à ce moment-là. Bon, alors on est dans l'entre-deux-tours donc
de la primaire.
Et juste pour revenir sur les couvertures de match, Hamon ou Mélenchon en couverture de match, c'est imaginable?
Hamon, on y a réfléchi. Ils étaient même du côté de Benoît Hamon. D'ailleurs, après avoir beaucoup daubé sur Macron en couverture de match, ils n'étaient pas contre. Et puis ça s'est un petit peu crispé, c'est-à-dire que Benoît Hamon lui a dit, à ce moment-là, puisque lui il avait une question aussi avec sa femme, hein, est-ce que parce qu'un candidat à la présidentielle c'est aussi une histoire personnelle, on lui a dit voilà, vous pouvez faire aussi raconter votre histoire personnelle, c'est quelqu'un qui a une histoire, il est né à Brest, il a vécu au Sénégal, il parle beaucoup de ses enfants, enfin il y a beaucoup de choses à raconter, et puis finalement il n'a pas voulu faire de photos, donc ça n'a
pas. C'est-à-dire concrètement il n'a pas voulu faire de photos avec sa femme,
ouais,
c'est ça.
Exactement.
Et vous auriez eu une photo avec sa femme, vous le mettiez en couverture.
Peut-être. Je ne sais pas. Hein. Enfin, en tous les cas, mais ça.
Vous en êtes pas sûr.
J'en suis pas sûr parce que ça dépend.
Mais pourquoi au fond?
Franchement.
Pourquoi n'en êtes-vous pas sûr?
Pourquoi j'en suis pas sûr? Parce que la question finalement c'est pas posée. C'est-à-dire qu'après, faut regarder.
En supposant.
On juge aussi en fonction de la qualité des photos, de la qualité du texte, de ce qu'on peut avoir. Il y a aussi tout ça. Enfin, puis ça dépend ce que donne la personnalité. Il faut aussi qu'elle. Benoît Hamon, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à raconter. C'est une trajectoire, c'est un parcours. On sait que il est très attaché à sa vie personnelle.
Vous voyez bien le sous-texte de ma question.
Vous voulez dire que j'hésiterais parce que je ne fais pas avec ma.
Alors non, mais je vais quand même le formuler puisque les sous-textes ne sont jamais meilleurs que quand ils sont formulés. Je veux dire, on a deux candidats de gauche qui sont Hamon et Mélenchon. Aucun des deux ne s'est retrouvé en une de match pour l'instant.
Oui, aucun des deux pour l'instant, mais ça aurait pu arriver.
Et ça n'arrivera pas.
Ah, ça, je ne sais pas. On a encore quelques semaines.
Mais ça vous pose
pas encore quelques semaines.
Mais ça vous pose pas un problème d'équilibre politique, clairement. Je veux dire, parce que Match se présente comme un magazine politique, après tout.
Oui, on n'est ni droite ni gauche. Ouais.
Alors pourquoi pas mettre les candidats de gauche en couverture?
Parce que d'abord, Mélenchon, on a beaucoup pensé faire des choses avec Mélenchon, et puis au dernier moment, ça s'est toujours un petit peu arrêté. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu de photos. Une fois, je me souviens, un été, on avait failli faire un bon truc avec lui, et puis bon, il n'a pas voulu. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui protège énormément son cercle privé et personnel. Mais à un moment, j'avais failli même partir dans sa maison de campagne. Je me souviens, un week-end, ça avait été annulé au dernier moment. Donc, vous voyez, ils y réfléchissent aussi. C'est aussi des hommes politiques qui décident à un moment de donner certaines choses, pas d'autres. Voilà. Et c'est vrai que à Match, il y a un côté la photo, c'est très important. Donc ça fait partie de notre ADN.
C'est vraiment ça la raison.
Non, c'est pas la raison.
Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont pas vous croire, qui vont penser ils nous.
Ils vont croire que je passe que des gens de droite.
Oui.
Non, c'est pas vrai. D'abord Macron, il est pas tout à fait de droite,
non, mais il est
tout à fait de gauche.
Enfin, bref.
Voilà. Non, mais c'est quand même. François Hollande a fait la couverture bien.
Oui. Non, mais on parle des candidats.
Non, mais d'accord. Mais donc non, je pense pas que ce soit. Je pense aussi qu'il y a des candidats qui ont aussi une appréhension par rapport à Paris Match. Hein. Et puis qui ne veulent pas, parce qu'ils pensent que Match, c'est que du people, alors qu'à mon avis, moi je dis toujours que Match, quand on le connaît, c'est le journal des Français. On touche énormément de monde. On est un des canards qui se trouve sur toutes les tables, partout, dans toutes les salles à manger de France.
Je dis
et on n'est même pas un canard parisien, je dis moi toujours.
Pour être parfaitement honnête, les Mélenchoniens n'ont pas totalement été absents de l'iconographie de Match, puisque très récemment encore. Mais alors, voilà. C'est un couple. Mais alors, évidemment, ils sont en couple. Donc c'est ça le critère, en fait.
Non, c'est pas seulement le critère. Alors, je vais vous dire cette histoire. Je connais très bien Alexis Corbière et Raquel Garrido, parce que je les vois régulièrement dans ma deuxième maison BFM. Et voilà, ça m'est venu comme ça. Et on a discuté. Et je pensais pas qu'ils accepteraient, d'ailleurs.
C'est vous qui leur avez proposé dans un couloir de BFM.
Non. Enfin, c'est moi qui ai pensé à cette photo. Et Eric Hackman, qui travaille avec nous depuis quelques mois, qui était au Parisien avant, et qui les connaît bien aussi, leur a proposé. Ils ont dit oui. D'ailleurs, le papier n'est pas seulement un papier sur... C'est quand même une aventure incroyable. Ce couple, ce sont les lieutenants politiques de Jean-Luc Mélenchon. C'est à la fois une histoire politique, une histoire personnelle, une histoire familiale. Bon, voilà. Alors après, bon, bah, si ça intéresse pas, les gens passent tournent la page. Mais je trouvais ça marrant.
Le regard du journaliste texte qui n'a pas soucié de toutes ces histoires de photos sur toute la grande séquence photo.
C'est intéressant parce que la question de la presse. Je sais pas comment vous vous appelez.
Pas presque,
voilà, je voilà. Que c'est en tout cas, il y a différents titres, etc. Mais
on peut dire quoi alors hein? On peut dire quoi si on peut faut pas
nous,
dire quoi,
nous franchement,
c'est quoi la bonne appellation?
C'est un magazine. C'est pas un news magazine.
Les magazines qui fonctionnent en tout cas beaucoup sur les histoires des gens comme ça et des histoires personnelles. C'est dans la campagne de Macron, c'est très intégré, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça est assez étudié dans la campagne de Macron, c'est-à-dire que Macron parle à différents lecteurs, lectorats et électeurs potentiels, c'est-à-dire qu'il y a la grande presse anglo-saxonne dans laquelle vous mettez des messages pour les marchés financiers ou pour les grands dirigeants du monde, il y a la presse Le Monde, etc., où vous faites passer un certain nombre de messages et vous segmentez, bon ça c'est de la communication politique classique, le message en fonction de l'émetteur. Et puis, il y a une théorisation que moi, j'entends depuis septembre que je couvre la campagne de Macron. À chaque fois, à chaque une de Paris Match, d'abord, il y a ce jeu incroyable à dire « Non, non, là, on est allé trop loin. » Mais bon, on le refait à chaque fois. Donc, c'est quand même assez drôle. On voit bien cette hésitation. Pourquoi ? Parce que il y a la certitude dans l'équipe d'Emmanuel Macron que comme ça, en gros, il atteint, et il y a toujours la même image qui revient d'ailleurs, la personne qui, soit la coiffeuse, soit la personne qui va chez le coiffeur.
C'est ce qu'ils disent.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Et qui lit ça et qui découvre, qui ne regarde pas forcément avec la même attention à la télé, par exemple, Macron qui ferait une interview télé, ou qui ne lit pas Le Monde, ou qui ne lit pas le FT, le Financial Times encore moins. Et du coup, de dire, c'est comme ça qu'on atteint un lectorat. Et en plus, en disant, par ailleurs, l'histoire avec Brigitte, femme plus âgée que lui, etc., machin, on va pas refaire toute la vie privée parce qu'on le lit partout, est un atout politique pour lui, parce que ça suscite une curiosité et que ça suscite un intérêt. Moi, ce que je trouve juste, c'est que Paris Match fait du Paris Match, et ma grand-mère est très contente, elle est abonnée à Paris Match, et elle adore, elle a 90 ans, elle adore, et il y a plein de gens...
C'est un journal populaire, hein.
Voilà.
On l'oublie tout le
temps. Mais ce que je veux dire, ce qui me semble plus intéressant, et on a vu l'Obs, on a vu d'autres, il y a l'Express aussi, qu'on pourrait citer, ou Le Point, il y a, je trouve, une sorte de... pardon du mot, parimachisation, on pourrait dire, de la presse hebdo autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire comme l'histoire personnelle, la curiosité, le mariage avec sa femme plus âgée, etc., de Macron, tout ça intéresse cette façon-là. Alors du coup, il y a beaucoup de couverture dans ce sens-là, auquel il faut rajouter l'irrésistible conquête du pouvoir, l'ascension incroyable, etc. Et du coup, c'est le storytelling principal sur Macron. Et là, je trouve qu'il y a un problème journalistique, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est assailli d'histoires comme ça. Et du coup, je trouve qu'on manque, de façon générale, d'autres histoires, c'est-à-dire pour détailler un peu le monde d'Emmanuel Macron, qui, après tout, prétend quand même à être président de la République. Donc c'est un peu intéressant de savoir avec qui il discute, qui il voit, qu'est-ce qu'il pense vraiment, etc. Et là, je trouve qu'on a un petit manque, et c'est pas à 40 jours de la présidentielle, malheureusement, qu'on va pouvoir régler ça, il me semble. Il me semble que là, il y a un raté de pas mal de médias. Il y a plein de gens qui font des trucs très bien, mais voilà, on a beaucoup... Et d'ailleurs, j'en parlais, c'est intéressant, juste pour finir là-dessus, récemment avec un lieutenant de Macron, un député qui l'a rejoint récemment, et qui disait, c'est marrant, parce que je dis, mais qu'est-ce que tu penses? Je le tutoie. Qu'est-ce que tu penses? Parce que je le connais depuis 2012, les députés.
Non, mais moi, je dis les choses.
Il y a des députés que je tutoie, qui sont un petit nombre, et il y a des députés que je vous vois, je suis le Parlement depuis très longtemps, et je lui disais, qu'est-ce que tu penses de la couverture de Macron par la presse? Et il me disait, c'est marrant parce que je trouve ça assez mauvais, donc c'est intéressant qu'il dise ça. Et par ailleurs, il dit, je trouve qu'il y a cette espèce de, en effet, d'histoire romantique, là, toujours, d'Emmanuel Macron et de sa femme, qui est racontée et qui finalement finit par saturer l'espace. Et je trouve que vous passez à côté de certaines choses. Donc même lui le disait.
Bon, ce qui, au fond, laisse un espace libre pour des médias comme Mediapart, et donc vous ne devriez pas vous en plaindre, mais on va venir au
traitement de
Mediapart.
Non, bien sûr,
juste à la fin de l'émission. Avant ça, alors, il y a un autre élément essentiel de la fabrication d'un récit médiatique électoral, c'est évidemment les sondages. Sur les sondages, Match se distingue depuis le début de la campagne avec un produit un peu particulier.
C'est ça, donc depuis le 1er février, IFOP Fudicial, en partenariat avec Paris Match, CNews et Sud Radio, publient quotidiennement un sondage supposé livrer une analyse en temps réel sur la présidentielle. Donc Sud Radio commente l'évolution hebdomadaire du sondage. Paris Match, vous avez choisi de commenter presque quotidiennement sur les réseaux sociaux les variations donc, des intentions de vote. Et ça donne des variations extrêmement minimes de temps en temps. Par exemple, là, on a François Fillon la cote d'alerte. Et quand on lit l'article, en fait, on se rend compte, voilà, deuxième baisse consécutive pour François Fillon dans le sondage quotidien, le candidat LR retombe à 18%, soit moins 0,5%. Et de 2%, on a même interrogé... 2,1. On a même interrogé le responsable du pôle politique de l'IFOP qui nous a assuré que les plus 2 ou plus 3, d'intention de vote n'ont pas de sens statistique.
Et alors, bon, alors il y a ce que vous publiez sur Match, puis il y a le, il y a les réseaux sociaux. Moi, il se trouve que je suis abonné à votre compte Twitter. Et quasiment tous les jours, je vois tomber, des titres absolument apocalyptiques, la chute, le toboggan, l'ascension, il la rejoint, elle le rattrape, etc. Et quand on regarde les chiffres, on a du 0,5, c'est-à-dire on est au cœur du cœur du cœur de la marge d'erreur. Mais pourquoi vous fabriquez ce feuilleton-là?
Le titre est souvent, quand il y a un titre qui marque, qui est plus fort, c'est la conséquence souvent de 2-3 jours. Alors, c'est vrai que le titre, on le lit sur une journée, mais...
Non, mais le feuilleton, il est quotidien.
Oui, le feuilleton, il est quotidien.
Le Fillon dans le toboggan, c'est moins 0,5.
Là, ce jour-là, là, je ne sais pas si c'était peut-être moins 1 jour, là.
Enfin, bref. On est toujours dans la marge d'erreur.
Je suis d'accord. Vous allez me dire, on est toujours dans la marge d'erreur. Mais moins 1 sur un rolling, c'est, mine de rien, c'est beaucoup. Mine de rien,
c'est toujours dans la marge d'erreur.
Oui, non du tout.
C'est toujours dans la marge d'erreur, mais c'est toujours dans la marge d'erreur, mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup quand même. Puisqu'en fait, Fillon, ça fait quand même 15 jours qu'il nous explique qu'il a son socle et qu'il ne baisse pas, qu'il ira plus au-delà de 19. Il est à 18. On verra combien il sera aujourd'hui. Enfin, il repart à la baisse alors qu'il n'avait plus bougé.
C'est un sondage sur 500 personnes sur Internet, c'est ça?
C'est 500 personnes par jour. Ouais. Et donc, quand vous avez le rolling, si vous voulez, c'est 500 personnes par jour. Sur 3 jours, ça fait 1500 personnes. Donc, vous allez me dire, on pourrait faire un commentaire tous les 3 jours et on aurait 1500 personnes. À partir de lundi, d'ailleurs, au passage, on passera à 800 personnes par jour.
Voilà. Alors, pourquoi entretenir un feuilleton quotidien qui n'a aucun sens?
Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est quand même une mesure quotidienne de l'évolution du rapport de force entre les candidats.
Mais Bruno, je dis non. Une variation de plus 0,5% de moins 0,5% ne traduit aucune évolution. Elle est dans la marge d'erreur.
Oui, elle est dans la marge d'erreur. Mais c'est quand même une évolution. Tous les sondages, il y a une marge d'erreur.
Oui.
Tous les sondages. Vous feriez un sondage, celui du monde d'aujourd'hui, du Cevipof, il y a aussi une marge d'erreur. Donc il y a une marge d'erreur tous les jours.
Oui, on est bien d'accord. Mais construire un feuilleton quotidien, si vous voulez...
Mais si vous reprenez sur la semaine, par exemple, Sud Radio le fait sur la semaine. Nous, on a décidé de le faire tous les jours. Si vous le prenez sur la semaine, Fillon, ça fait 15 jours qu'il n'avait pas bougé du 19. Vous tombez à 18. Quelque part, vous voyez bien que dans la semaine, il s'est passé deux événements qui, manifestement, font plonger Fillon.
Mais attendez, comment vous pouvez dire qu'il plonge alors qu'il passe de 19 à 18 et qu'on est dans la marge d'erreur? Ça, j'arrive pas à comprendre, si vous voulez. C'est pas un plongeon.
Mais c'est pas un plongeon. Il baisse quand même d'un point alors que depuis 15 jours, il était stocké, il était tanké à 19. Oui. Donc c'est quand même le signe qu'il se passe quelque chose.
Même si les sondeurs qui fabriquent le sondage vous disent attention, c'est dans la marge d'erreur.
Oui, il y a 2,1, mais on dit qu'il s'est marqué qu'il y a la marge d'erreur.
Pas toujours.
En tous les cas, c'est marqué. Si vous prenez la page complète, si vous prenez la page complète du Rolling, c'est marqué 2,1. Je suis pas sûr que ce soit marqué partout.
Sur CNews, sur CNews,
non, mais c'est pas marqué partout qu'il y a 2,1.
Sur
notre page internet, quand vous avez les petites bulles et tout, c'est marqué qu'il y a une marge d'erreur de 2,1.
Même question qu'on vous posait à propos des couvertures. Est-ce que c'est pour faire du clic sur le site? C'est-à-dire, est-ce que ces articles font du clic sur le site? Est-ce que ça marche?
Du clic, oui, ça marche.
Sur Twitter, ça marche bien.
Oui, ça marche. Oui, ça marche.
Sur Twitter, ça rapporte pas de pub.
Oui, ça rapporte pas de pub. Sur le site, oui, ça marche. Oui, ça amène du monde sur le site. Il y a deux rolling. Il y a deux rolling en fait, c'est des sondages quotidiens, parlons pas en anglais. Il y en a deux, il y a les Échos et Opinionway qui en ont un à midi et nous qui en avons un à 18h. C'est quelque chose qui existe à Paris Match depuis 2007. En fait, on l'a importé des États-Unis, enfin c'est pas moi. Ça a été importé des États-Unis parce que là-bas, il y a 7 ou 8 rolling d'ailleurs sur la campagne américaine. Et ils le font depuis 2007. L'outil s'est vraiment affiné en 2012. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, le rolling 2012 a abouti au résultat exact de la présidentielle.
sur les sondages ?
Bah nous, à Mediapart, on n'en utilise pas, on n'en commande pas et on n'en commente pas. Simplement, ce que je constate, moi, comme pour suivre la campagne, c'est que je n'ai pas connu de campagne présidentielle avant, donc je ne peux pas comparer. Et je pense que cette campagne, en plus, est particulière avec toutes les affaires, etc. Et donc, du coup, c'est très difficile, y compris même nous, à Mediapart, de caler des moments, vu tous les rebondissements qu'il y a, de reportages pour aller saisir, etc. Mais ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est dans une campagne complètement atypique. Donc, on essaye de le faire au plus possible. Mais ce qui est fascinant, c'est que tous les candidats, et tous les états-majors et toutes les discussions politiques, moi que j'ai en tout cas dans la campagne autour de Macron, sont des discussions centrées sur les sondages, sur la dernière fois avec encore un proche de Macron sur Bayrou est très fort, l'item crédibilité, moralisation de la vie politique est très fort chez Bayrou, donc c'est un atout pour nous, etc. C'est comme ça qu'on parle et c'est comme ça que cette campagne présidentielle est appréhendée. Et moi, je n'exclus pas du tout que le soir du premier tour, on se rende compte que dans le grand récit qu'on est en train de se faire, c'est-à-dire que tout le monde se fait, c'est-à-dire en gros, Marine Le Pen est très en tête,
et qu'il faut
derrière le seul enjeu pour Fillon et Macron en ce moment, c'est pour ça qu'ils se disputent comme ça, comme chien et chat en ce moment, et que Macron veut choper tout l'électorat de Fillon en ce moment et envoie tous les signaux possibles, c'est parce que il faut être le deuxième derrière Marine Le Pen, parce tout ça sur la base des sondages, etc. Je dis pas que tout ça est une fiction qui à la fin sera pas juste. C'est juste que la réflexion politique est uniquement centré.
Moi, c'est ça qui me fascine, parce que je ne connais pas l'entourage de Macron. J'imagine que ce sont des gens éduqués.
Oui.
J'imagine que ce sont des gens qui lisent la presse étrangère.
Oui.
J'imagine que ce sont des gens qui ont suivi le Brexit, par exemple, qui ont suivi l'élection américaine. Oui. Et malgré ça, il continue à accorder une foi aveugle au sondage.
Moi, ce que je vois surtout dans l'entourage de Macron, il y a deux types de par rapport à ça. D'abord, il y a des gens qui sont très confiant sur la victoire et depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est fait.
Quand on fait une présidentielle,
ouais, d'accord. Mais je trouve avec qui c'est compliqué du coup parfois d'opposer des arguments contraires. Et bon voilà. Et après, il y a des gens qui sont quand même conscients qu'il y a un certain nombre de fragilités très grandes dans cette candidature. Donc ils sont quand même un peu plus nombreux. Donc ils ont quand même encore un peu de sens politique. Mais c'est vrai que tout ça est vraiment centré sur la question de l'accession au deuxième tour face à Marine Le Pen.
Et c'est vraiment la question de la foi dans les sondages et de c'est toujours de l'extérieur, si vous voulez,
toujours étonnant de voir moi, ça la foi me,
qui est encore accordée par les entourages politiques au sondage, alors que les exemples de fausses prédictions...
Et même parfois, c'est difficile, je trouve, il faut appeler beaucoup de gens pour avoir une analyse politique du coup qui sort et tout, parce que plein de fois c'est des commentaires de sondage que j'ai en première instance de la part de députés ou de soutien d'Emmanuel Macron ou de gens qui font sa campagne. C'est en première instance des commentaires de sondage, et ensuite ils disent oui mais si on va un peu plus loin, etc. Là la discussion politique peut commencer, mais c'est aussi, j'imagine, parce que la demande des journalistes est massivement du commentaire de sondage, en tout cas c'est ce que j'imagine.
Alors le dernier ingrédient d'une campagne politique, et surtout celle-ci, ce sont évidemment toutes les affaires qui touchent les scandales qui touchent, alors, non pas tous les candidats, mais en tout cas trois des principaux candidats, Le Pen, Macron et Fillon. Macron n'est pas épargné par les soupçons divers, notamment d'ordre financier. Un petit résumé, Robin.
Allez, c'est parti, on prend une aspirine. On a appris donc il y a trois jours que le parquet de Paris avait ouvert une enquête qui porte sur des soupçons de favoritisme liés à un déplacement de l'ancien ministre de l'économie à Las Vegas en janvier 2016. Donc l'enquête qui vise à déterminer si oui ou non cette soirée a été attribuée à Havas sans appel d'offres ne vise pas directement le candidat d'En Marche, mais il y a aussi la question de son patrimoine. Il y a trois jours aussi, l'association de lutte contre la corruption Anticor a saisi la Haute Autorité pour la Transparence pour vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère donc de la déclaration d'intérêt signée en octobre 2014 par Macron, dans lequel le candidat d'En Marche affirmait avoir perçu à la banque Rothschild 3,3 millions de revenus avant impôts entre 2009 et 2014. Mais dans sa déclaration de patrimoine, signée aussi en octobre 2014, Macron fait état d'un patrimoine de 1,2 million d'euros et d'un endettement d'un million d'euros. Soit, le calcul est vite fait, un patrimoine net de seulement 200 000 euros, ce qui suscite des interrogations selon Anticor. Depuis des semaines, il y a Hamon qui pousse également Macron, qui a collecté 6,5 millions d'euros de dons particuliers.
Ça doit être à 9 millions même.
Bon ben, 9 millions, depuis le début de sa campagne, a donné le nom de ses donateurs. Et à ce propos, Mediapart, vous avez écrit dans un article du 5 mars que Macron était allé récolter en octobre dernier des fonds de campagne à Uccle, en Belgique, dans un arrondissement chic de Bruxelles, bien connu pour abriter des exilés fiscaux
surtout
français.
Surtout à Londres, en fait, où il va beaucoup ramasser de l'argent. Parce que
mais à Londres, on a souvent vu les images, mais moi, les images, je ne savais pas que Macron était aussi allé à Bruxelles.
Oui, Bruxelles. Ça avait été rapporté par la presse belge.
Ouais. Voilà, et dernière chose, ensuite j'arrête, dans l'enfer de Bercy, publié aux éditions Lattès, les journalistes Frédéric Seyss et Marion Lourd affirment que Macron, quand il était ministre de l'économie, a utilisé à lui seul 80% de l'enveloppe de ses frais de représentation accordés pas à son ministère par le budget et des députés LR et UDI l'accusent d'avoir utilisé cet argent public pour préparer sa campagne présidentielle.
Bon, voilà. Bref, il y aurait du lourd pour interpeller Macron sur toutes les questions que Robin vient de soulever. Et pourtant, quand vous vous retrouvez face à Macron dans une conférence de presse, le ton de la question est différent. On l'écoute.
Bonjour, Mathieu Magnodex, Mediapart. Nous sommes à très peu de temps de la présidentielle et dans la situation politique que vous avez décrite au début, qui est assez troublante. Est-ce que vous ne craignez pas, en tout cas, quelle est la vision que vous avez sur ce projet que vous présentez aujourd'hui ? Est-ce que, notamment en cas de second tour face à Marine Le Pen, il vous permet de répondre aux attentes des classes populaires, aux attentes des classes moyennes dont vous avez beaucoup parlé, dont vous commencez à beaucoup parler, puisque le risque est d'être le candidat, vu comme le candidat du mondialisme, mot de Marine Le Pen, de l'UMPS, mot de Marine Le Pen aussi, finalement du cercle de la raison, des technos, et de ce que, par votre parcours, vous pouvez, que vous le voyez ou non, incarner.
La question est cash. Vous avez le choix, à ce moment-là, vous êtes en face de lui, hein, dans une conférence de presse, vous avez le choix entre lui poser une question à la Mediapart, c'est-à-dire une question sur les affaires qu'il touche, enfin, ou sur les soupçons qui se dirigent contre lui, ou lui poser une question politique. Pourquoi vous choisissez de lui poser une question politique ?
Parce que, pour tout vous dire, la veille, nous avions vu Sylvain Faure, directeur de la communication Emmanuel Macron, et Christian Darnia, chargé de la collecte des fonds, après plusieurs semaines de demandes répétées pour justement faire le point sur les questions et qui concernaient la collecte des fonds, sur lesquelles j'avais préparé un papier depuis longtemps, et la question du patrimoine. Sur lequel travaille davantage la Mediapart Mathilde Mathieu, ma consoeur, qui a notamment révélé justement les ennuis, parce qu'il y a d'autres questions, les sujets de l'ISF d'Emmanuel Macron qui avaient été révélés en juin 2016. Donc on est allé les voir.
Et de la sous-évaluation de sa maison
du Touquet, etc. Voilà, il y a eu un rattrapage derrière, etc. Il s'est fait un peu rattraper par la patrouille. Et du coup, on en avait vu la veille, et on allait publier le papier.
Vous avez vu qui la veille ?
On avait vu Sylvain Faure, oui, Christian Darnia.
Mais pas lui directement. Et en fait, il semble qu'il y ait quand même une question à laquelle seul lui directement peut répondre, c'est où sont passés les millions de Rothschild,
oui.
Puisque l'entourage vous répond, il a été très dépensier, il a dépensé beaucoup d'argent, mais si on a envie de savoir où sont passés les millions de Rothschild, c'est peut-être à lui qu'il faut le demander directement.
Ouais, c'est vrai qu'en même temps, dans ces conférences de presse, par ailleurs, la question a été posée après par un journaliste du Temps.
Là, vous aviez une occasion formidable.
Oui, mais moi, j'avais envie de poser une question politique, parce que moi, mon obsession, c'est un moment où ça se fait aussi de façon un peu pas toujours très calculée. Moi, j'avais envie de poser une question politique sur son rapport aux classes populaires, aux classes moyennes, qui pour moi est justement la grande question de la campagne, c'est-à-dire le grand nuage, et que j'ai l'impression que personne ne le prend en compte, j'ai l'impression que c'est très peu... Et donc j'avais envie de poser cette question, c'est vrai.
Mais ce qui veut dire que vous considérez dans votre fort intérieur que les soupçons d'ordre financier qui s'exercent sur lui ne sont pas... Il n'y a rien de très sérieux derrière, et rien en tout cas de suffisamment important pour justifier une interpellation directe comme ça dans une...
Non, là, en l'occurrence, c'est parce que du coup, le papier... J'avais vu... on avait fait le point la veille, etc., là-dessus, sur toutes les questions qui se posaient, etc., avec son équipe. Et moi, j'avais envie de poser plutôt cette question à ce moment-là, c'est vrai. Oui.
Une question d'envie.
Ouais, c'est une question d'envie, ouais.
Alors, si je vous pose la question, c'est parce que, effectivement, quelques semaines plus tôt, dans une conférence de presse de François Fillon, une de vos consoeurs, Hélène Salvi, était dans la salle. Et alors, on va voir que le ton de la question était quand même assez différent.
Bonjour Monsieur Fillon, Hélène Salvi de Mediapart. Vous avez déclaré aux 20h de TF1 le 26 janvier avoir embauché votre femme à l'Assemblée nationale à partir de 1997. C'était deux jours après les premières révélations du canard enchaîné. J'imagine que vous aviez déjà pu parler avec vos équipes à ce moment-là. Et vous avez également ajouté qu'avant, elle travaillait avec vous bénévolement, ce sont vos mots, depuis 1981, depuis votre premier mandat dans la Sarthe. Or, nous avons appris quelques jours plus tard qu'en fait, ces premiers contrats de travail remontaient en réalité à 1988. Ma question est assez simple. Est-ce que vous avez menti au JT de TF1 ? Et si oui, pourquoi ?
Vous êtes de Mediapart, c'est ça ?
Donc le ton n'est pas exactement le même. On est d'accord ? Le temps des deux questions.
Ouais, ouais. Moi, j'ai, enfin, oui, oui, si vous voulez. Mais je, genre, après, mais non, je, mais, oui, oui, bien sûr. Non, bien. Enfin, je sais pas. Je, oui. Enfin, moi, mais... je sais pas quoi vous dire. Je, on n'est pas obligé d'être toujours sur le même standard, etc. Non, enfin, c'est, on peut aussi poser des questions politiques. Mais, non, non, on a un service politique. On pose des questions politiques.
Bien sûr. Mais voyez bien quel, voyez bien l'effet d'image. Comme je parlais tout à l'heure à Bruno jeudi de l'effet d'image de ne jamais mettre les candidats de gauche en couverture de match. Là, l'effet d'image pourrait être, bah, dis donc, Mediapart, ils ont envie de saquer Fillon. Par contre, ils sont drôlement sympas avec Macron et ils le laissent passer à travers. Vers les gouttes. Voilà.
On pose des questions dans Mediapart, on a fait des papiers sur tous ces aspects-là, etc. Donc moi, j'ai pas de. Voilà, en l'occurrence, j'avais vraiment envie ce jour-là de poser cette question-là.
D'accord. Et sur le. Globalement, sur le traitement de Macron, pardon, par Mediapart, vous avez le sentiment que c'est un traitement qui est le même que celui que vous appliquez, par exemple, à François Fillon ?
La campagne de François Fillon, en fait, le traitement, la campagne de François Fillon est suivie, du coup, par deux personnes qui suivent la droite, qui se mettent beaucoup là-dessus, qui, et puis aussi par Mathilde Mathieu, qui s'occupe de l'aspect parfois d'enquête en plus. Là, il y a eu un gros travail qui a été fait à Mediapart, en effet, sur à la fois, mais toujours en tenant l'aspect vraiment affaires, etc., avec. Quand même, dans l'affaire Fillon, un nombre incroyable de fils à tirer. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'une pelote comme ça, d'un système, de quelqu'un qui, de fait, et c'est la grande surprise par rapport à l'image de la primaire, trouve un peu, dès qu'il peut trouver un peu de l'argent à prendre, ça semble quand même être ça la réalité.
Il y a moins de fils à tirer sur
Macron. On n'est pas exactement dans la même chose. Par contre, moi, ce que je trouve qui est plus intéressant, qui devrait être expliqué, c'est des papiers, par exemple, sur que par ailleurs Mediapart est en train de préparer, mais que d'autres pourraient faire aussi. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la description du monde d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que moi, j'ai une vraie question de, il y a un certain nombre de patrons qui sont assez favorables à Emmanuel Macron, par exemple. Voilà, comment il gouvernerait si ces gens étaient ses visiteurs du soir, etc. Je trouve que c'est des vraies questions qu'il faut poser aussi et qui ne sont pas forcément posées.
Les questions qui vous paraissent importantes de poser sont plutôt ce type de questions, c'est-à-dire des questions portant sur l'avenir et sur la manière dont il gouvernerait. Que sur, par exemple, son entourage actuel. On a vu, par exemple, ça a été révélé, non pas par Mediapart pour une fois, mais par une revue médicale, on a vu qu'il avait dans son entourage un personnage qui avait des rapports très étroits avec les laboratoires Servier.
C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai un double. À Mediapart sur Macron, pour ce qui concerne Macron, on a un double enjeu, qui est à la fois de traiter ses affaires et de regarder un petit peu tout ça. Donc on le fait, et franchement, tout ce qu'on a écrit pour l'instant, c'est parce qu'on avait quand on a des informations qui sont vérifiées, recoupées, etc., comme on l'a fait par exemple sur le patrimoine, et d'ailleurs Anticor cite l'article qu'on a fait avec Mathilde Mathieu dans sa lettre et dans sa saisine de la Haute Autorité de la vie politique. Et en même temps, il y a un autre enjeu qui occupe pas mal de mes journées, c'est vrai, et c'est d'où en lien avec cette question politique, qui est pas du tout être dans le storytelling imposé par la campagne d'Emmanuel Macron et d'essayer de raconter ce candidat, d'essayer de raconter ce phénomène politique avec pas mal comme ça de pièges et de choses trappes et de faux semblants. Et du coup, j'essaye de développer une couverture qui, c'est vrai, prend pas mal de temps sur essayer de décrire, par exemple, un petit peu le système très business, finalement, de la façon dont il conçoit l'organisation de son parti entreprise d'une certaine façon et comment il veut faire une OPA sur le système politique français. Il me semble que c'est un angle de papier qui était... Donc, en fait, ça occupe pas mal de mon temps, y compris de se mettre en décalage par rapport au traitement général dont je parlais tout à l'heure.
Et sur ces donateurs, par exemple, un des thèmes récurrents de Benoît Hamon, là, il n'y aurait pas quelque chose...
On a fait un papier, un grand papier avec Mathilde, où franchement...
Oui, le même papier, d'ailleurs, où vous révéliez qu'il était... vous disiez qu'il était à Bruxelles, oui.
Voilà. Après, on a fait un papier. Après, on pourrait discuter le choix. Le choix a été de faire un papier sur, d'une certaine façon, Macron et l'argent, d'une certaine façon. C'est-à-dire à la fois ce qu'il dit de son rapport à l'argent et justement la question du donateur et de son patrimoine. On aurait pu faire aussi deux papiers. Il se trouve qu'on a fait ça, comme ça, etc. Donc ça, c'est une décision qui se fait comme ça. Voilà.
Bref, il n'y a pas d'indulgence particulière de Mediapart par rapport à Macron comparé à Fillon.
Non.
Non. D'accord. Match et l'investigation, il y a eu une période où Match avait aussi, outre sa tradition photographique, une grande tradition
d'investigation
qui semble avoir un peu disparu aujourd'hui.
Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de notre organisation interne, mais il y a eu des départs, voilà.
Non remplacés.
Pourquoi ? Parce que d'abord, nous sommes dans le cadre... c'est un peu compliqué à raconter, mais d'abord, nous sommes dans le cadre d'un plan où actuellement, on ne peut pas remplacer toutes les personnes. Non, mais quand même... Il faut embaucher à l'extérieur.
Oui, bien sûr. Enfin, le groupe Lagardère a peut-être les moyens d'embaucher deux investigateurs s'il estime que c'est une priorité.
oui, mais enfin, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même un peu de droit du travail à respecter. Enfin, bon, voilà, par ailleurs. Et on en fait, oui, on en fait plutôt moins par rapport à une certaine époque.
Vous le regrettez ?
Peut-être qu'on pourrait en faire plus, oui, effectivement. Oui,
peut-être.
Oui. Bah, peut-être, c'est-à-dire qu'après, si vous voulez, il y a des choix à faire dans une rédaction.
Là, il y aurait matière. Là, je veux dire, de quel côté quand on
a fait,
la tête,
on a si fait beaucoup le... plus. On a mis beaucoup plus le paquet en 2015 et 2016 pour avoir des moyens pour pouvoir couvrir notamment les grands reportages sur Mossoul, sur la Syrie, sur l'Irak et tout ça. Où là, on a mis beaucoup de moyens avec en développant ce pôle là. On n'a pas renforcé l'investigation comme on aurait dû le faire. Oui, alors, ça c'est. Mais à un moment, faut faire des choix. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, il y a eu ce choix qui a été fait de suivre beaucoup les questions de djihadisme.
On a beaucoup
suivi ça et aussi bien sur les théâtres extérieurs, c'est-à-dire en gros Syrie, Irak, Libye, et aussi en France où on a fait beaucoup d'enquêtes sur ces questions-là.
Plutôt le djihadisme que les affaires financières.
On a fait beaucoup ça. Oui, je dois. Oui, c'est un fait. Voilà.
Juste pour terminer l'histoire entre Macron et Mediapart. Donc, alors Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas privé de récupérer.
Non. Il vous a répondu. Il vous a répondu une longue tirade de plusieurs minutes où il vous accuse notamment de faire le lit du FN. Donc une tirade, et c'est ça qui est intéressant, transformée le soir même en vidéo virale en fait. Mais... et publiée sur la page Facebook du candidat où elle a été vue depuis près de 2 millions de fois. On regarde à quoi ça ressemble.
Aussi longtemps que vous passerez plus d'énergie à expliquer que je suis le candidat de l'oligarchie financière, que je suis un ancien banquier uniquement et rien d'autre, et que je ne vaux pas mieux que 4 années de ma vie professionnelle à vos yeux, parce que moi j'en suis très fier de ces années, eh bien en effet vous continuerez à faire le lit du Front National, cher ami. Et c'est une très bonne politique.
Une réaction ? Vous l'avez bien servi, finalement, avec votre question.
En fait, visiblement, il cherchait un moment pour caser ça. C'est-à-dire que c'est la preuve aussi que la question n'était pas si mauvaise, même si... C'est la question que tout le monde se pose. Forcément, sur la question de est-ce qu'il est candidat du système, de l'oligarchie financière, etc. Machin, et est-ce qu'il va pas se faire plier par Marine Le Pen s'il est au deuxième tour de la présidentielle sur ces sujets-là. C'est une question qui me paraît super importante. Donc peut-être qu'elle était la traduction de mes angoisses du moment qui restent toujours très fortes sur la capacité que le Front National gagne la présidentielle. Je le concède volontiers et voilà. Donc j'en suis tout à fait d'accord. Après, ce qui était fascinant, moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que, dans le contexte d'une conférence de presse, un candidat à la présidentielle transforme la conférence de presse momentanément en meeting, quitte à se faire applaudir par ses soutiens. Hein. Ce n'est pas les journalistes qui ont applaudi, quand même, il faut le redire et le redire, parce qu'il y a eu beaucoup de... Voilà. Donc, par les soutiens politiques qui étaient autour de lui. Transformer donc ça en meeting, pour ensuite, sur les questions après, revenir tranquillement en mode conférence de presse.
Vous avez beaucoup voilà. ça hein, en voilà. 2007. Hein.
Mais donc, il n'était pas sur Facebook.
Voilà. Non, donc après, à l'époque, c'était sans doute pas aussi développé chez les politiques.
Mais de fait, du coup, ça avait moins d'impact public. Là, c'est un impact public considérable.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je pense qu'il l'utilise. J'ai un peu réfléchi parce que quand même, je me dis qu'est-ce qui est là. Est-ce que du coup, ça valide ? Est-ce que ça valide la thèse qui est que quand on est journaliste de Mediapart, on ne doit poser que des questions du coup pas que strictement sur la question des affaires, MSA, parce que du coup, c'est notre ADN et que c'est comme ça, etc. Ou est-ce qu'on peut se permettre des questions politiques ? De fait, ça m'a fait réfléchir à ça puisque visiblement, quand un journaliste de Mediapart pose une question qui est comme ça, il est immédiatement, finalement, là, ce qu'il fait, c'est une sorte de prise de judo où il se sert de l'image de Mediapart, qui est le journal qui embête les gens, etc., pour du coup retourner d'une certaine façon. Voilà. Donc ça, je vois bien le truc.
Du coup, il l'avait fait, parce que c'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait à Mediapart Live.
Voilà, sur Uber.
C'est
et
ça.
Donc, voilà. Là, en jouant sur un autre truc.
Le journaliste de Mediapart,
Il avait dit ce que vous voulez, c'est la déconstruction du droit social.
Et comment expliquer que Mediapart ait tant de mal et puisse servir parfois, de temps en temps, à ce point-là, en fait, la com de Macron ?
Mais moi, je sais pas si je.
Ah bah si, là, ça sert. Là, c'est des millions de vues. Ça montre un candidat qui est en position de force face à des journalistes de Mediapart. Ça sert sa com. Que vous le vouliez ou non.
Alors, dans les deux cas.
Vous avez du mal à trouver la prise, quoi.
Oui.
Non, c'est pas dans les deux.
Je sais pas si vous la cherchez, mais vous avez du mal à la trouver.
Moi, je ne trouve pas, parce que là, sur l'exemple de cette émission-là, d'abord, sur l'histoire de la conférence de presse, j'aurais bien voulu pouvoir relancer. Je n'avais plus le micro à ce moment-là, donc c'est compliqué quand même de relancer. Parce que, erreur, je le concède tout à fait, mais franchement, à un moment, vous n'avez pas montré, mais dans l'image, il m'engueule à nouveau dans la caméra, et c'est parce que je suis en train de lui faire la réponse, mais personne ne peut m'entendre parce que je n'ai pas le micro. Donc, ok, je suis d'accord. Voilà, erreur. J'admets mes erreurs. Il n'y a aucun problème.
C'est vrai qu'il n'y a pas de droit.
Il n'y a pas de droit de suite. Et dans l'histoire de la vidéo de Mediapart, c'est un petit peu la même chose, parce que on est sur un espace où on prévoit pas forcément qu'il va faire cette tirade-là, etc. Et donc, du coup, ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est dire, écoutez, là, vous nous, machin. Oui, peut-être. Voilà. Donc, après, c'est vrai que...
Il faudrait le stopper.
Il faudrait dire, voilà. Après, l'idée de cette émission et l'idée de tous les lives qu'on fait, et franchement, on l'a fait avec tous les candidats à la primaire, du PS, on l'a fait, je me rappelle, d'émissions très intéressantes avec Mélenchon quand il venait pendant 2h30 nous parler de son projet politique, etc. L'idée de ces émissions-là, donc peut-être qu'on se fait prendre à notre propre piège à ce moment-là, dans cette l'idée de ces émissions-là, c'est de voir un peu ce que les candidats ont dans le ventre, d'une certaine façon. Et on est à un moment, début novembre, où Macron, il y a encore un gros doute sur la capacité de ce mec à juste se présenter à la présidentielle, en fait. Et donc, du coup, on est aussi dans ce questionnement-là, à ce moment-là. Voilà.
La morale provisoire de l'histoire que j'ai envie de tirer, c'est la télé, c'est un métier, quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Ah, il s'arrête. Très bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette réflexion en mouvement sur Macron. Est-il ou pas le chouchou des médias? Vous en tirez évidemment les conclusions que vous le souhaitez. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.